Pascal Erard du CFSI, faire l'introduction et on commencera avec les interventions.
Voilà,
Pascal.
l'enregistrement est lancé, donc vous pouvez encore protester si vous ne le faites pas maintenant. Voilà, donc, je vais faire donc une courte introduction, vous expliquer un petit peu le cadre finalement dans lequel se déroule ce webinaire. Donc le webinaire est organisé par le collectif N'exportons pas nos problèmes France. Ce collectif s'est constitué en 2019 en appui à la campagne Monlait local en Afrique de l'Ouest. Cette campagne regroupe les producteurs et les transformateurs de lait local de 6 pays sahéliens. Parmi leurs objectifs, c'est un soutien de la part de leurs États en faveur de la filière lait locale, mais aussi qu'il y ait une action qui soit menée avec les ONG et les organisations de la société civile européenne, notamment France, Belgique, pour contribuer à lever les contraintes qui peuvent peser sur la filière lait locale en Afrique de l'Ouest. Parmi ces contraintes figurent les exportations, qui peuvent constituer un dumping ou une concurrence déloyale pour les producteurs ouest-africains. Ça concerne les investissements, puisque de nombreux investissements visent, notamment de multinationales, mais surtout à transformer de la poudre importée d'Europe ou d'autres régions du monde plutôt que d'acheter du lait local et donc de contribuer au développement de la filière. Donc voilà, donc c'est un peu dans ce cadre-là que ce webinaire s'organise. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est il y a une loi qui est la loi sur le devoir de vigilance. Il y a des initiatives dans d'autres pays européens et au niveau de l'Union européenne. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est déjà de mettre à niveau les connaissances des uns et des autres sur cette loi, sur sa mise en œuvre, sur est-ce que c'est un levier, mais aussi est-ce qu'il y a des limites. Et puis, à partir de là, ben, le collectif pourra s'approprier ces réflexions et voir comment on pourra donner suite et de quelle manière sur cet axe de travail, sur le devoir de vigilance, qui concerne en particulier Danone et Lactalis, qui est des entreprises laitières françaises. Donc voilà, ben, je te cède la parole maintenant, Hélène, pour lancer le débat et puis compléter s'il y a des choses à dire.
Merci. Voilà, on a trois intervenants aujourd'hui. On va commencer d'abord avec un panorama au niveau français, voire voilà, plutôt en détail la loi française et sa mise en œuvre dans l'agro-industrie, voir le bilan qui peut être tiré. Pour ça, on a Alexia Delfosse qui va pouvoir prendre la parole, qui est chargée de mission dignité au travail, régulation des multinationales pour ActionAid France. Voilà, Alexia, je te laisse te présenter et commencer. Et on présentera nos deux autres intervenants qui vont faire un panorama au niveau européen et un focus précisément sur Danone ensuite. Alexia, je te laisse commencer. Vas-y.
Alors, du coup, je vais vous partager mon écran. Est-ce que c'est bon? Présentation.
Oui, c'est bon.
Ok. Donc, du coup, j'imagine que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez déjà entendu parler de la loi française sur le devoir de vigilance. C'est une loi dont on est, nous, organisation de la société civile, assez fiers. Et pour comprendre ses origines, il faut remonter en avril 2013. Parce que du coup, en avril 2013, au Bangladesh, s'effondre l'immeuble du Rana Plaza, et cet effondrement provoque la mort de environ 1 100 ouvriers et ouvrières et 2 000, et provoque 2 000, environ 2 000 blessés. Et il faut savoir que du coup, ces usines, elles étaient essentiellement les usines de sous-traitants et de fournisseurs qui travaillaient principalement pour de grandes multinationales européennes et françaises. Et parmi les décombres, par exemple, on a retrouvé des étiquettes de Auchan. Et donc, à partir de là, naît l'idée né l'idée d'une loi qui permettrait de rendre responsables et redevables les entreprises qui se cachent derrière des chaînes de production complexes avec de multiples sous-traitants et de multiples filiales pour diluer leurs responsabilités. Mais c'est aussi une loi qui cherche à éviter que les entreprises se cachent derrière des mesures volontaires de responsabilité sociale des entreprises qui ont prouvé leur manque d'efficacité pour prévenir les violations de droits humains et de l'environnement. Et donc cette loi, elle est adoptée en mars 2017. Et concrètement, du coup, qu'est-ce qu'elle établit? C'est une loi qui oblige les grandes entreprises françaises à élaborer, à publier et à mettre en œuvre des mesures adaptées d'identification des risques et de prévention des atteintes aux droits humains et aux libertés fondamentales, à la santé et à la sécurité des personnes et à l'environnement. Et en contrepartie, les entreprises qui ne respectent pas cette loi peuvent être sanctionnées. Et pour relever du champ d'application de la loi, les entreprises doivent satisfaire deux critères, un qui est relatif à leur forme sociale et un autre qui est relatif au nombre de salariés en leur sein et aussi dans leur filiale directe et indirecte. Et donc, ce seuil est fixé à 5 000 en France et à 10 000 dans le monde. Et ce seuil du nombre de salariés, il est assez crucial parce que nous considérons qu'actuellement, il est trop élevé. Et il ne permet pas de prendre en compte toutes les entreprises responsables de violations de droits humains et de l'environnement. Et nous souhaitons aussi que l'application de la loi se fasse pour toutes les sociétés commerciales, ce qui n'est pas le cas actuellement. Mais cependant, ce qui est quand même intéressant avec cette loi, c'est qu'elle prend en compte tous les secteurs d'activité. Et voilà, et les objectifs de cette loi sont d'abord de mieux prévenir les dommages collatéraux provoqués par les activités de ces entreprises et de permettre aussi aux victimes d'avoir accès à la justice. Et donc concrètement, la loi établit également que les risques d'atteinte grave envers les droits humains et les libertés fondamentales, envers la santé et envers la sécurité des personnes et l'environnement, ces risques qui résultent des activités de la société, de ses filiales, ainsi que celles de ses sous-traitants, de ses fournisseurs, avec lesquels l'entreprise entretient une relation commerciale établie, eh bien, ces risques doivent être identifiés dans un plan de vigilance qui doit aussi permettre la mise en place de mesures effectives de prévention de ces risques. Et concrètement, le plan contient les choses suivantes. D'abord, une cartographie des risques, des procédures d'évaluation régulière de la chaîne de valeur, des actions adaptées d'atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves, un mécanisme d'alerte et de recueil des signalements, et un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d'évaluation de leur efficacité. Dans le secteur de l'agro-industrie, quel est le bilan qu'on peut faire actuellement? Alors d'abord, il faut savoir que c'est un bilan qui est délicat à établir parce que le contrôle repose essentiellement sur les ONG et il n'y a pas de mécanisme de contrôle pour s'assurer que ces entreprises répondent à leurs obligations légales. Et il n'y a aucune liste officielle d'entreprises soumises à la loi qui a été publiée. Et donc moi, pour établir ce bilan dans le cadre de ce webinaire, je me suis basée essentiellement sur le travail de Sherpa et du CCFD, avec notamment le radar du devoir de vigilance, et aussi un rapport qui a été publié en 2019 sur le devoir de vigilance dans le secteur agro-industriel. Dans les entreprises soumises à la loi, on trouve des grands groupes de la distribution alimentaire français et européen, notamment McDonald's, Bigard, Nestlé, Bonduelle, Auchan, Carrefour, Danone, Flunch, Monoprix, Nestlé, j'ai déjà dit, voilà, etc. Il y en a énormément. Mais il y a aussi des entreprises comme Lactalis, qui compte environ 85 000 employés et qui n'avait toujours pas publié de plan de vigilance en 2020. Tout comme Nestlé, Vigard, McDonald's ou encore le groupe Les Mousquetaires. Et donc, en 2019, le CCFD Sherpa a pointé du doigt le fait que les plans de vigilance des entreprises de l'agroalimentaire présentaient souvent uniquement des mesures assez succinctes quand elles en présentaient, du coup. Et c'est-à-dire que ces entreprises, par exemple, ne renseignaient pas nécessairement une cartographie des risques précise. Elles avaient des difficultés à identifier des risques spécifiques à leur secteur ou à leur type d'activité et parfois, leur plan de vigilance ne faisait que reprendre des risques qui étaient identifiés dans le cadre de leur politique de responsabilité sociale des entreprises et c'était insuffisant. Et parmi ces risques oubliés, les deux organisations identifiaient les risques suivants, notamment les risques d'accaparement des ressources en terre et en eau, les risques qui sont liés à l'agriculture contractuelle, pour les droits des paysannes et des paysans, et les risques causés par la standardisation des semences et par le déploiement inconsidéré de cultures d'OGM sur la biodiversité, la santé et la souveraineté alimentaire, et également les risques de criminalisation des défenseurs et des défenseuses des droits humains et de l'environnement. Et donc, même si cette analyse date de 2019, la permanence de violations de droits humains et de l'environnement liées à l'agro-industrie nous montre que beaucoup reste à faire. Certains plans de vigilance depuis 2019 ont été améliorés, comme celui de Carrefour, mais on identifie quand même des problèmes comme au Brésil. Dans un rapport de l'ONG Reporter Brasil avec Friends of the Earth Europe, des entreprises brésiliennes de l'industrie de la viande comme JBS, qui fournissent justement des supermarchés de Carrefour, ont été reliées à des cas de déforestation et de violation de droits humains. Et donc, il est important de rappeler que l'objectif avec une loi sur le devoir de vigilance, ce ne sont pas les plans, mais bien la mise en place d'actes concrets sur le terrain. Et quand les actes ne sont pas mis en place, on a des exemples d'assignation en justice. Et donc, dans le secteur agro-industriel, il y a l'exemple de Casino, qui, donc en mars 2021, a été assigné en justice par des peuples autochtones de l'Amazonie brésilienne et colombienne, avec des ONG françaises et américaines. Et ils jugeaient du coup que les ventes des produits à base de viande par le groupe Casino participaient à la déforestation et l'accaparement de terres des peuples autochtones. Et du coup, c'était la première fois qu'une chaîne de supermarchés était assignée en justice sur la base du devoir de vigilance. Il faut savoir que du coup, cette assignation, elle se basait sur des enquêtes qui ont été réalisées par les plaignants pour montrer qu'il y avait des atteintes graves à l'environnement, des atteintes systématiques à l'environnement et aux droits humains tout au long de la chaîne d'approvisionnement du groupe Casino au Brésil et en Colombie, et sur une période assez significative. L'assignation en justice avait fait suite à une mise en demeure en 2020. Qui a une mise en demeure en 2020. Et le groupe, à ce moment-là, avait 3 mois pour répondre, pour éviter la procédure judiciaire, mais leur réponse n'a pas été satisfaisante parce qu'ils considéraient avoir mis en place toutes les mesures nécessaires à éviter les violations de droits humains et de l'environnement sur le terrain. Donc voilà, l'assignation en justice dans ce cas-là est quand même une bonne nouvelle. Ça veut dire que grâce à la loi, des victimes peuvent avoir accès à la justice et que les choses bougent dans le secteur agroalimentaire. Mais le processus est encore assez compliqué, notamment pour les victimes, et notamment en raison de la charge de la preuve qui repose sur elles, ou sur la société civile et non, sur les entreprises responsables. Je vais laisser la parole à Marc-Olivier, j'imagine.
Oui, merci Alexia. Merci, c'était vraiment très bien de pouvoir refaire le point sur les objectifs de la loi, ses limites, voilà, et de conclure en effet sur les possibilités de recours voilà, le processus difficile de recours juridique aussi. Voilà, c'est une loi qui a quand même créé un précédent et qui, on peut dire, sert un petit peu de base pour le projet qui est en train de directive qui est en train de se dessiner au niveau européen depuis plusieurs mois. Voilà, maintenant on va laisser la parole à Marc-Olivier Hermant qui travaille au bureau européen de Oxfam à Bruxelles et voilà, qui suit ce dossier depuis longtemps et qui va justement nous présenter un petit peu ce qui est en cours au niveau européen, qui travaille sur ce sujet et voilà, ce qui est en jeu. Marc-Olivier, je te laisse la parole.
Oui, bonjour, merci. Donc, on peut dire que la France joue un rôle de précurseur sur ce dossier, hein. Je pense que c'est le seul pays européen qui a une législation qui est en vigueur et qui introduit un réel devoir de vigilance. Il y a dans d'autres pays européens des éléments présents. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus partiels et dans certains cas qui ne sont pas encore opérationnels. Je pense notamment en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, et qui sont très, très centrés dans le cas, par exemple, de la Grande-Bretagne sur le reporting ou sur certains aspects comme aux Pays-Bas. Mais on peut dire que de façon générale, à travers l'Union européenne, il y a un mouvement pour suivre l'exemple de la France. Donc, il y a plusieurs pays où il y a des processus législatifs en cours, plus ou moins avancés. Le cas le plus avancé en ce moment au niveau national, c'est l'Allemagne, où on s'attend à ce qu'une législation soit adoptée avant la fin du mandat du gouvernement actuel. Normalement, ça devait se faire avant l'été. Il y a un petit peu des problèmes enfin, de dernière minute sur certains aspects de la loi. Mais on voit que donc le précédent français fait des émules en Europe. C'est très, très bien. Mais ce dont je veux vous parler maintenant, c'est le processus au niveau européen qui est complémentaire. Je crois que c'est important de comprendre ça. C'est que ce dont je vais vous parler au niveau européen, c'est complémentaire à ce qui est déjà en place au niveau national ou ce qui est en train de se mettre en place. Les deux, évidemment, doivent être articulés et on peut espérer qu'il y aurait une dynamique vertueuse entre les deux et où le processus européen va venir renforcer, compléter ce qui est déjà en place ou ce qui se met en place au niveau des États membres. Donc, en toute vraisemblance, donc on va avoir une directive au niveau européen. Je vais vous parler du processus, mais donc le processus européen va aboutir à la mise en place d'une directive. Alors, il faut savoir qu'une directive européenne n'est pas applicable directement dans le système des États membres, donc ça devrait être transposé. Et donc, il y a un travail de transposition, de mise en œuvre au niveau national qui est très, très très, très important. Et donc, je pense que c'est vraiment bien qu'il y ait des associations comme les vôtres qui suivent le processus européen. D'abord pour essayer que on arrive en bout de course avec un texte qui soit le plus fort et le plus utile possible, qui ne vienne pas déforcer, par exemple, dans le cas de la France, ce qui est déjà en place au niveau français. Donc ça, c'est la première étape, c'est très, très important. Et puis, dans un deuxième temps, quand le texte européen sera adopté, que la transposition et la mise en œuvre au niveau national soient la plus forte possible. Donc, où est-ce qu'on en est au niveau européen pour le moment? La nouvelle commission, donc von der Leyen, qui est arrivée, qui a commencé à travailler donc en janvier 2020, sa priorité, c'était une de ses grandes priorités, c'est le European Green Deal. Donc, ça c'est le contexte général. Et cette proposition s'inscrit dans ce contexte, vient se rajouter à ça le contexte de la crise Covid. On a craint avec la crise Covid que l'attention à la gouvernance des entreprises et aux impacts des entreprises aurait pu délégitimer cette priorité de la Commission. Mais heureusement, ça ne s'est pas passé. Et donc, c'est plutôt l'inverse qui s'est passé. Et on a pu. Donc, il y a eu une tentative de dire, bon, c'est pas le moment d'introduire des nouvelles réglementations pour les entreprises, mais c'est plutôt la dynamique contraire qui a prévalu, de dire, on s'est rendu compte pendant la crise Covid qu'il y a toute une série de problèmes dans les chaînes de valeur des entreprises, toute une série de failles et de vulnérabilités qui ont été exposées, et cette loi doit contribuer à y remédier. Maintenant, il faut rester très, très vigilant, et on le voit maintenant que les choses se concrétisent, que le discours inverse reprend du poil de la bête. Donc le discours qui tend à dire que ne rajoutons pas des fardeaux aux entreprises, c'est pas le moment. Donc il faut rester très vigilant par rapport à ça. Mais de façon générale, je pense que le discours qui prévaut encore maintenant, c'est que cette législation peut être un outil pour tirer les leçons de la crise Covid et repartir sur des meilleures bases. Et c'est ça qu'il faut tenir. Il faut tenir cette ligne-là. Je pense que c'est très important. Donc la Commission a inscrit ça dans le cadre de ce Green Deal européen. Un des éléments du Green Deal, c'est une législation sur la gouvernance des entreprises. Il y a deux aspects dans cette initiative de la Commission. Je vous ferai parvenir les liens pour que vous ayez tous les détails après, via Hélène, vous aurez tout ça en détail. Et donc, il y a deux grands aspects dans cette initiative de la Commission qui a été mise à l'agenda du programme de travail de la Commission pour cette année, avec une annonce d'un dépôt de proposition législative à la fin du deuxième trimestre, donc à la fin du mois de juin. Ça c'est l'agenda officiel, avec deux aspects dans la proposition législative. D'une part, réformer la gouvernance des entreprises, réformer les obligations des administrateurs d'entreprises, et d'autre part, introduire des obligations contraignantes en termes de responsabilité, enfin non, responsabilité, donc ça c'est un grand mot, on va y revenir, mais donc de devoir de vigilance des entreprises par rapport à leur chaîne de valeur. C'est les deux grands éléments qui ont été annoncés par la Commission. Maintenant, le fait qu'on a mis ces deux choses-là ensemble dans l'initiative crée des problèmes. C'est un mélange, le mariage n'est pas forcément heureux, et c'est un mélange plutôt explosif qui fait qu'on assiste maintenant, ces dernières semaines, à des obstacles politiques et maintenant à des délais. Donc, la proposition ne va pas être déposée d'ici la fin du mois de juin, comme annoncé. Elle ne sera pas à l'agenda du Collège des commissaires avant l'été. Ce sera au plus tôt au mois de septembre. L'obstacle principal donc ce qui fait problème a à voir avec la gouvernance des entreprises. Je ne vais pas en parler maintenant, mais enfin, sachez que c'est un dossier très délicat parce qu'on touche à la rémunération des dirigeants d'entreprise. On voudrait introduire des nouvelles obligations pour les dirigeants d'entreprise liées au devoir de vigilance, une nouvelle responsabilité, et c'est là que le bât blesse. Donc il y a une très forte opposition, il y a eu des lettres de certains États membres. Cet aspect-là de la proposition, pour le moment, fait problème. Maintenant, dans son ensemble aussi, il reste des questions sur comment la Commission va, quelle va être l'architecture de la proposition, quelle va être l'option retenue par la Commission. Donc, on n'a pas de fuite majeure, donc on n'a pas de draft de la proposition de la Commission. Donc, ce que je vais vous dire maintenant, c'est basé sur des éléments externes. Donc, ce qu'on peut espérer, vu ce que les autres institutions en ont dit. Parce qu'il faut savoir que le processus européen, c'est toujours lié à un triangle décisionnel. Il y a la Commission qui a le droit d'initiative, mais la Commission n'opère jamais dans un vide politique ou légal. Elle tient compte de ce que les deux autres grandes institutions disent. Le Parlement européen d'une part et le Conseil, donc les États membres d'autre part. Je vais commencer par le Conseil parce que ça c'est très court. Le Conseil a adopté des conclusions. De nouveau, je vous ferai suivre les documents par l'intermédiaire d'Hélène. Donc en décembre, sous présidence allemande, il y a eu ce qu'on appelle des conclusions du Conseil, ce qui est une prise de position politique des États membres formelle sur les droits de l'homme et un travail décent dans les chaînes de valeur globales. Et là-dedans, ce qui est positif, c'est qu'il y a une référence explicite, une invitation, donc on s'est battu pour ça, à déposer un texte, une invitation à la Commission à déposer un texte pour aller au-delà de l'approche volontaire et actuelle, qui est tout à fait inopérante, basée sur la bonne volonté des entreprises, finalement. Donc, mais cette position n'est pas définie, donc ça reste très, très général. Donc, il n'y a pas, le conseil n'a pas vraiment pris position sur le contenu de la proposition. Mais disons que le conseil a dit qu'il accueillerait avec bienveillance une proposition législative de la commission. Donc, ça, en soi, c'est déjà très important. Puisqu'on voit que sur l'aspect gouvernance des entreprises, là, le Conseil pose problème et pourrait bloquer l'initiative de la Commission. Donc, ça, c'est pour le Conseil. Sur le Parlement, on a déjà beaucoup plus, les choses sont beaucoup plus avancées, puisque le Parlement, dès son, donc, tout de suite après les élections de mai 2019, il y a eu un groupe de parlementaires qui a pris cette question à cœur. Il y a des parlementaires français qui ont joué un rôle important dans ce dossier, que vous connaissez certainement. Manon Aubry, hein, ancienne collègue d'Hélène, Pascal Durand et d'autres. Et donc, on a une position du Parlement, ce qu'on appelle un rapport d'initiative du Parlement. Et dans ce cas-ci, c'est un rapport d'initiative législative. Et donc, qu'est-ce que le Parlement a fait? C'est que le Parlement a pris les devants en s'adressant à la Commission, en disant « on voudrait bien qu'il y ait une proposition législative, il faut légiférer, il y a un besoin, et voici une ébauche de loi ». Donc, le Parlement a rédigé sa propre version de la législation. Évidemment, c'est du placebo, puisque le Parlement n'a pas de réel pouvoir d'initiative en matière législative. Donc, c'est une ébauche à prendre ou à laisser, donc qui n'est pas contraignante pour la Commission. Mais c'est très utile parce qu'on voit là où il y a un point d'équilibre entre les différents groupes politiques. Donc, ce rapport d'initiative qui a été adopté au mois de mars permet déjà de voir là, enfin, ce qui est possible au Parlement, et on sait que, enfin, sur ce genre de questions, en général, le moteur, c'est le Parlement. C'est normalement la voie la plus progressive. Au Conseil, c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'il faut trouver des compromis entre les 27 États membres et qu'il y a beaucoup de gouvernements très conservateurs. Voilà. Et la Commission, nous, ce qu'on espère, c'est que la Commission va aller au-delà de ce que le Parlement dit, mais on ne sait pas. Donc, ce qui pourrait arriver, c'est que la Commission soit en deçà de ce que le Parlement propose. Donc, qu'est-ce que le Parlement dit en deux mots? Je ne sais pas au niveau du temps, là, j'ai pas. Il me reste combien de temps, en fait, juste pour savoir jusqu'où
je peux aller. Tu peux encore avoir 5 minutes.
OK. Donc, qu'est-ce que le Parlement dit et puis qu'est-ce que les ONG demandent? Avec les 5 minutes, je vais essayer de parcourir très, très, très brièvement ça. Et puis, on peut y revenir dans la séance de questions-réponses. Donc, de nouveau, je vais vous transmettre ça. Donc, le rapport du Parlement, il y a une résolution qui commence. Et ce qui est la partie la plus importante, c'est l'annexe à la résolution, qui est l'ébauche de législation. Donc, d'abord, en termes de champ d'application de la législation, là, il faudrait comparer avec les détails de la loi française, mais donc ça s'appliquerait seulement aux grandes entreprises. En gros, c'est plus de 250 employés, je crois que c'est mieux que la législation française, si je me souviens bien, et 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, et aux entreprises, petites et moyennes entreprises cotées en bourse. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que ça s'applique à toutes les entreprises de façon proportionnelle, avec des obligations proportionnelles. Mais donc, ce qu'on demande, c'est qu'il n'y a pas de raison que des petites et moyennes entreprises qui ont un impact très, très, très conséquent soient exemptes de la législation. Mais ça, c'est la proposition qui est sur la table. Et enfin, ça va être très difficile d'aller au-delà que de ce que le Parlement propose, parce qu'on voit dans des propositions législatives récentes de la Commission qui ont à voir avec ceci, notamment sur le reporting des entreprises dont je ne vais pas parler maintenant, la Commission est en deçà, donc ne va pas au-delà. Donc ça, c'est sur le champ d'application, ce qui est un point très important. Maintenant, en termes du contenu des obligations, on pourrait dire que le texte du Parlement est assez bon. Hein. Donc, c'est un vrai devoir de vigilance sur les trois grands aspects, hein, droits de l'homme, environnement, bonne gouvernance, avec un texte qui suit la référence en la matière, ce qui est le texte des principes directeurs des, des Nations Unies et des textes de l'OCDE, avec une incidence négative potentielle ou réelle, le fait qu'une entreprise cause ou contribue à des impacts négatifs sur ces trois aspects, donc droits de l'homme, environnement, gouvernance. Donc, ce n'est pas seulement une responsabilité directe. On pourrait interpréter le texte, mais le fait de contribuer, voilà, on pourrait encore aller plus loin, mais c'est bien. Là où c'est plus problématique, c'est que un compromis a dû être fait pour avec une exemption, enfin une comment dire, un échappatoire, une faille où on donne la possibilité à des entreprises, aux petites et moyennes entreprises ou aux entreprises dont toutes les relations d'affaires sont basées dans l'Union européenne, de simplement produire une déclaration de non-incidence. Donc ça, c'est très problématique, notamment, mais bon, ce n'est pas le sujet évidemment de votre campagne, mais tout le secteur agricole en Europe, tout le problème du travail des migrants non documentés, tous les abus dans les chaînes de valeur, mais aussi dans le secteur textile, hein, il y a aussi des problèmes en Europe. Mais donc, ce qu'on craint, donc il y a une poussée pour que cette législation exclue du champ d'application les entreprises basées en Europe, la chaîne de valeur en Europe. Voilà. Ce qu'on a parvenu à éviter à faire, parce qu'il y avait une pression très grande, et on voit ça dans les propositions allemandes actuelles, donc ce qui va passer en Allemagne, on est parvenu à éviter de segmenter la législation par, je ne sais pas quel est le mot en français, par tier, donc par niveau. Donc il y a une poussée très forte de certains groupes politiques dans le Parlement pour dire ça s'appliquera seulement aux relations d'affaires directes, donc le premier niveau, hein, et on s'arrête là. Ça on a évité, donc c'est l'ensemble de la chaîne de valeur qui s'applique, ça c'est très important, mais on voit qu'au niveau national il y a une pression pour dire non, c'est pas possible, c'est trop compliqué d'aller au-delà des relations d'affaires directes, les chaînes de valeur actuelles c'est compliqué, c'est des milliers de fournisseurs, ça on est parvenu à éviter parce que ça viderait évidemment la législation de son sens, hein, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de réelle responsabilité dans ce cas-là. Un autre aspect qui est important, c'est la consultation des parties prenantes. Donc ça, c'est dans le texte. C'est important. Donc je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est là. C'est un aspect sur lequel on s'est battu et c'est bien là. Et donc il faudra se battre pour que la commission. On espère que la commission va prendre ça en compte. Et puis si c'est pas le cas, au niveau des amendements. Là où ça devient plus compliqué, c'est au niveau de la responsabilité des entreprises, qui est vraiment un chantier extrêmement important, puisque si c'est juste un exercice formel de reporting, de mise en place d'une stratégie, de publication d'une stratégie, c'est très bien. Mais s'il n'y a pas à la clé une réelle responsabilité des entreprises, si elles ne mettent pas en place cette stratégie ou si la stratégie n'est pas effective, alors on n'est pas vraiment avancé. Et là, la proposition du Parlement, elle est ambiguë, hein. C'est de nouveau le résultat d'un compromis et remet la responsabilité au niveau des États membres. Ça renvoie, le texte du Parlement dit les États membres doivent avoir en place un régime de responsabilité conformément au régime national. Donc, c'est très ambigu. Donc, il n'y a pas un mandat clair pour une mise en place d'une responsabilité claire des entreprises sur base de la nouvelle législation. Ça pourrait être interprété comme se satisfaisant des régimes de responsabilité actuels, de responsabilité civile, ce qui serait tout à fait insatisfaisant. Donc là, il y a vraiment, je pense, pour l'avenir, pour les associations, vraiment un chantier où il faudra pousser très très fort et évidemment aller au-delà. Il faut évidemment que idéalement aussi une responsabilité pénale. Bon, et là c'est pas dans le texte, donc il n'y a pas de référence explicite à la responsabilité pénale. Et puis une surveillance vraiment des États membres qui soit effective, ça c'est dans le texte, mais que ce soit qu'il y ait une vraie comment dire des sanctions administratives dissuasives. et des pouvoirs d'enquête, d'initiative des autorités nationales. Donc tout le volet de comment on dit, d'enforcement, Hélène, tu dois m'aider de rendre le texte vraiment contraignant. Hein. Ça serait un grand chantier pour les mois et l'année qui viennent. Et on espère pouvoir compter sur vous. Je crois que je vais en rester là parce que mon temps voilà, on peut revenir à des questions spécifiques dans la deuxième partie de cette réunion. C'est juste pour vous donner le panorama. Voilà, on attend maintenant la proposition de la commission. Les groupes de pression, vraiment maintenant, ces dernières semaines, on voit qu'ils montent en puissance, aussi bien au niveau des États membres qu'au niveau des entreprises. Voilà, donc il faut vraiment être sur la brèche. D'abord, pour éviter que la proposition de la Commission soit remise au calendrier grec. Et deuxièmement, pour s'assurer que la Commission ne va pas déposer une proposition au rabais avec le plus petit commun des dénominateurs, ce qui serait vraiment une occasion manquée.
Merci Marco, je crois que tu as motivé toutes les associations françaises à travailler avec toi sur le devoir de vigilance au niveau européen. C'était très très clair, très précis. Merci beaucoup. C'est vrai que on voulait cette intervention au niveau européen parce que dans le cadre de la campagne Mon lait local et de N'exportons pas nos problèmes, il y a quand même 10 multinationales que l'on regarde attentivement car elles ont des activités en Afrique de l'Ouest et elles ont des filiales pour la plupart en Afrique de l'Ouest. Voilà, donc c'était très intéressant d'avoir ce panorama et de voir un peu ce qui se profile au niveau européen. Maintenant, on va regarder plus précisément au niveau d'une entreprise, qu'est-ce que ça veut dire le devoir de vigilance, qu'est-ce que peut être le rôle des syndicats, des partenaires sociaux, avec Hélène Debordes, qui est secrétaire nationale d'Europe et internationale de la FGA-CFDT et qui est présidente du comité international de consultation des salariés de Danone. Voilà, Hélène, je te laisse la parole et je te laisse enchaîner.
Merci Hélène, bonjour à tous. Donc, j'ai le plaisir de voir que Julie Duchâtel et Ron Oswald sont là. Donc, comme je vais parler de l'UITA, évidemment, je vous invite Ron et Julie à compléter tout ce que je vais dire sur Danone et le devoir de vigilance. Donc, en introduction, dire qu'à la CFDT, la responsabilité sociale des entreprises, ça a toujours été un sujet très important pour nous. On a toujours considéré que c'était un levier supplémentaire au service de la stratégie syndicale, mais on a quelques difficultés quand même à impliquer nos équipes sur ce sujet, puisqu'elles sont bien souvent très préoccupées par ce qui se passe sur leur site, mais bon, il y en a certaines qui s'impliquent quand même. Donc, un petit point global, en fait, sur la manière dont on approche cette loi d'un point de vue syndical, avant de rentrer plus spécifiquement sur le cas Danone. Donc déjà, dire que la question sur la loi sur le devoir de vigilance, la CFDT a été très, très active et très impliquée sur l'élaboration de cette loi et que donc c'était vraiment une étape extrêmement importante pour arriver à une mondialisation plus juste, enfin en tous les cas pour tendre vers une mondialisation plus juste puisqu'elle met fin à un vide juridique en matière de RSE. Et donc la CFDT a beaucoup travaillé en lien avec les ONG du Forum citoyen pour la RSE et donc elle s'est fortement impliquée, notamment pour imposer le fait que on intègre dans la loi la participation des syndicats dans l'élaboration du plan de vigilance, mais aussi dans la construction de l'alerte, en fait, hein, de la mise en place du devoir d'alerte, enfin du rôle de l'alerte. Et donc ça c'est des points dont on est assez satisfait. Alors maintenant que c'est sur le papier, c'est un peu compliqué de la faire vivre cette loi et de se l'approprier. Et concrètement, ça signifie quoi? Qu'est-ce qu'on essaie de dire aux équipes? C'est que même s'il n'y a pas d'obligation, elles doivent s'impliquer à tous les niveaux des instances de représentation du personnel. Et un des leviers, donc je vais commencer par le niveau national, et ensuite européen et ensuite international, sachant que tout est lié. Donc, ce qu'on préconise au niveau national, c'est qu'au niveau du CSE, on demande à ce que les équipes construisent et signent un accord de groupe pour essayer de prévoir quelle est l'articulation entre les différentes instances au niveau France, Europe, monde. Et dans le cadre d'Anon, comité d'entreprise à mission, et bien sûr, comité l'OCA, comité d'administration, conseil d'administration, pardon. Donc cette loi, enfin, cet accord devrait prévoir ça. Et puis aussi, la fréquence des consultations sur les orientations stratégiques du contenu et du plan de vigilance. Donc ça, c'est le premier point. Et donc, au niveau européen, après le niveau national, donc on a les comités d'entreprise européens. Donc, c'est là, on rentre vraiment dans le vif du sujet, puisque bon, le devoir de vigilance, c'est quand même une loi, enfin, Alexia l'a très bien expliqué, qui concerne vraiment les chaînes de sous-traitance. Et donc, c'est au niveau monde. Donc, le comité d'entreprise européen, il doit servir à ce que le plan de vigilance soit présenté, à ce que les salariés et les représentants au comité d'entreprise européen puissent poser des questions sur l'identification et la présentation des risques, sur la manière dont le plan a été élaboré, surtout, et sur le suivi. Et ensuite, le comité, enfin, au niveau mondial, et c'est de mon point de vue le plus intéressant, mais on ne peut pas parler que de la coopération syndicale mondiale si on n'arrive pas à embarquer les équipes au niveau local, mais la coopération mondiale, donc, bah, alors, de notre côté, elle se fait avec donc l'UITA, c'est pour ça que j'ai cité Ron et Julie tout à l'heure, puisqu'ils travaillent tous les deux à l'UITA. Donc l'UITA c'est quoi? Rapidement, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas l'UITA, c'est la Fédération syndicale internationale de l'agroalimentaire et du tourisme, à laquelle sont affiliés tous les syndicats libres de l'agroalimentaire au niveau monde, donc Afrique, Asie, États-Unis, etc. Et donc en fait c'est un réseau extraordinaire de représentants des salariés de l'agroalimentaire et de l'agriculture, donc alimentation agriculture. Et donc à partir de là on peut constituer ce réseau. Donc je voulais appuyer sur ce point parce que c'est extrêmement important pour travailler sur les chaînes d'approvisionnement à l'étranger. Donc c'est un vrai vivier en fait d'information. Donc maintenant que j'ai fait une petite présentation globale de la perception syndicale et des différents leviers qu'on pouvait utiliser, je vais donc parler du sujet sur lequel on m'a demandé de m'exprimer. Donc c'est Danone. Donc pourquoi Danone? Pourquoi Danone? Cette entreprise qui a fait bien du bruit dans les médias ces temps-ci, et pourquoi elle a fait autant de bruit d'ailleurs, c'est parce que précisément elle a un affichage RSE et de politique sociale qui est extrêmement fort. Donc dès que ça déconne entre guillemets chez Danone, tous les médias sont autour parce que bien sûr la vitrine se prend un gros coup de canif et ça intéresse beaucoup les médias. Donc pourquoi Danone? Eh bien parce que c'est une entreprise qui a une réelle volonté de faire avancer ces sujets de RSE. Et pas que sur le papier, hein, on a beaucoup d'exemples concrets. Et en fait, on souhaite utiliser au niveau de la CFDT Danone comme une entreprise pilote avec laquelle on va vraiment travailler sur le plan de vigilance. Et ensuite, cette méthode, on aimerait la dupliquer dans toutes les entreprises de l'agroalimentaire. Donc, à chaque fois que c'est possible. Hein, et chez Danone, il y a vraiment un terreau tout à fait favorable pour faire ça, puisque vous le savez, Danone est devenue entreprise à mission. On a 9 accords cadres internationaux qui ont été signés avec l'UITA et qui montrent bien la volonté de Danone en fait d'avancer sur tous ces sujets sociaux pour le coup. Et donc c'est vraiment l'entreprise idéale pour avancer. Alors, le travail qu'on a entrepris, il est tout juste initié. Donc, je ne vais pas pouvoir vous parler de résultats pour le moment, mais plutôt d'une démarche qu'on est en train de mettre en place. Et d'autant que cette démarche, elle a été ralentie par la crise Covid et surtout par la crise de gouvernance qui a été, comme je le disais tout à l'heure, largement médiatisée. Donc, je vais quand même vous parler de la démarche et des sujets qu'on a ciblés pour travailler sur le plan de vigilance. Donc, la première étape, on part de rien. Donc, c'était d'essayer d'impliquer les équipes locales. Et donc, on a créé un petit groupe RSE donc, qui est constitué d'experts de chez Syndex, de Ron, qui vient parfois, que je ne vois pas, mais qui m'écoute sûrement, et d'une personne de la Confédération, Frédéric Lelouch, peut-être que quelqu'un la connaisse par ici, dans cette assistance, puisque c'est elle qui a participé à l'élaboration de la loi devoir de vigilance pour la CFDT. Et des représentants des salariés, je l'ai dit. Donc, ce petit groupe s'est réuni plusieurs fois et on a essayé d'identifier les risques de notre côté qu'il pouvait y avoir chez Danone, d'identifier également les leviers qu'on pouvait utiliser et d'identifier un premier plan d'action. Donc, les risques qui ont été identifiés principalement, c'est des risques. Donc, c'est le sujet du jour, hein, et on travaille avec Pascal et Hélène sur ce sujet depuis peu, mais c'est donc la durabilité de la chaîne laitière en Afrique. C'est la question des transports, puisque alors c'est Ron, ici présent, qui travaille sur ce sujet essentiellement, mais on a choisi ce sujet puisque c'est un sujet qui touche aussi les salariés en France directement, puisqu'ils voient des transporteurs stationnés sur les parkings, qui n'ont pas dormi de la nuit, qui sont pas payés, qui n'ont pas de permis de conduire, enfin bon, bref, plein de violations des droits, et donc c'est un sujet, on s'est dit que par ce sujet-là, il était plus simple d'impliquer les salariés puisqu'ils voient directement en fait ce qui se passe, hein, puisqu'ils sont confrontés à ces transporteurs. Donc ce sujet-là. Et ensuite les droits humains, puisque Danone, aussi Danone qu'il soit, bien qu'il y ait beaucoup de progrès qui soient faits notamment aux États-Unis sur la reconnaissance du droit syndical, il reste encore beaucoup de problèmes à traiter, et notamment en Indonésie sur la reconnaissance d'un syndicat qui est affilié à l'UITA et qui, du fait de la corruption en Indonésie, se retrouve complètement écarté des négociations, et un de ses membres est actuellement en prison. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail là, mais il y a quand même des problèmes de droits humains qu'on souhaite mettre au centre des risques et qu'on souhaite avancer sur ce dossier-là. Donc ça, c'est l'identification des risques faits par notre petit groupe. Ensuite, quels sont les leviers? Alors, les leviers, à commencer par les instances de représentation du personnel, donc évidemment les CSE au niveau France. Et au niveau Europe et international, on a la chance chez Danone, du fait d'un dialogue social de longue date, d'avoir plusieurs instances, dont le CIC que je préside. Donc le CIC, c'est le comité d'information et de consultation des salariés au niveau mondial. Donc il faut bien signaler au niveau mondial, ça veut dire qu'on a dans cette salle au moins une fois par an, quand il n'y a pas de réunion exceptionnelle, des gens d'Afrique du Nord, des représentants syndicaux d'Afrique du Nord, d'Amérique, du Canada, de l'Asie, d'Amérique latine. Donc c'est un lieu où on peut vraiment discuter de tous ces sujets. Et donc entre ces réunions annuelles du CIC, excusez-moi, c'est un petit peu technique, mais il faut comprendre comment ça fonctionne, on a des réunions intermédiaires. Donc au niveau européen, ça s'appelle le COPIL. Donc là, on parle de questions plutôt européennes, Allemagne, etc. Et ensuite, en plus important, on a le comité stratégique. Le comité stratégique, qui est piloté par Ron, il est mondial, en quelque sorte. Donc c'est des réunions intermédiaires où on se retrouve avec les États-Unis, avec l'Indonésie, et où on discute de toutes les problématiques liées notamment aux droits de l'homme, donc en Indonésie, en Russie, aux États-Unis. Et voilà. Ensuite, comme autre levier, on a maintenant le comité d'entreprise à mission. Ron vient d'être désigné pour y participer, et ça, c'est une excellente nouvelle parce qu'on va pouvoir avancer sur nos travaux en mettant en parallèle les questions liées au devoir de vigilance et celles de l'entreprise à mission, parce qu'il y a beaucoup de points communs. Et on va pouvoir, grâce à l'arrivée de Ron, mettre au centre du sujet, donc plan de vigilance, les questions des droits humains, ce qui est extrêmement important pour nous. Donc voilà pour l'identification des leviers. J'espère que je ne suis pas trop longue. Ensuite, identification d'un plan d'action. Alors pour le moment, c'est une ébauche, hein. Donc on a réussi, on a demandé donc à la direction de présenter son plan de vigilance au comité stratégique. Donc je répète, comité stratégique, réunion intermédiaire monde avec l'UTA. Et donc, on a constaté, alors bon, le plan de vigilance, il est public, donc on l'avait déjà regardé un petit peu avant, mais qu'il était bien trop succinct, hein, comme bien des plans de vigilance, même chez Danone, qui avait un gros zoom, c'est ce qu'ils nous ont dit, hein, oralement, sur, pour eux, l'identification des risques principaux, c'est principal, c'est sur les chaînes d'approvisionnement. C'est vraiment, vraiment leur cœur de préoccupation, leur centre de préoccupation. Mais bon, il y a une volonté vraiment d'avancer sur ce sujet. Donc, s'il y a une volonté d'avancer et que nous, en face, on est actifs, je pense qu'on peut faire des choses assez intéressantes. Et il y a une volonté d'impliquer les syndicats. Donc, on espère pouvoir arriver à des résultats plus concrets. Et deuxième chose qui a été faite, c'est qu'on a réussi à organiser une réunion donc, avec les représentants. Par l'intermédiaire du CFSI, donc de Pascal et de Hélène Oxfam aussi, on a réussi à organiser une réunion entre les représentants de l'UITA d'Afrique de l'Ouest, représentants des travailleurs, et les représentants de Oxfam. Et là, c'était assez intéressant, la présentation donc, de Monlay et Local auprès des représentants de l'UITA, parce que les représentants de l'UITA avaient un petit peu de mal à comprendre, en fait, pourquoi est-ce qu'on parlait du lait local, alors que, bon, eux, effectivement, via Falmilk, au Ghana et au Togo, ils fabriquent des yaourts à base de, bah, vous savez, hein, de lait en poudre enrichi à l'huile de palme, et ils ne voyaient pas trop le lien. En fait, ils disent, nous, on défend les droits des travailleurs. Donc là aussi, il y a un travail de sensibilisation à faire et, avec l'UITA et qu'on va faire, parce que l'objectif, c'est aussi d'impliquer, bien sûr, les salariés représentants des salariés chez Falmilk pour qu'ils portent aussi le sujet au niveau local. C'est toujours pareil. Il faut essayer de sensibiliser et d'avoir un maximum d'acteurs pour pouvoir porter le sujet, pour avoir plus de poids. Donc, on en est là. Alors, maintenant, quelles sont les perspectives? Les perspectives, bon, ben, il va falloir qu'on travaille, hein, sur l'articulation des instances, donc entre comité à mission, conseil d'administration, ce que je disais tout à l'heure, hein, et puis le CIC et toutes les instances que je vous ai cité tout à l'heure. Et on a un accord, on va prévoir une réunion pour rencontrer Danone, donc avec la direction de Danone, avec Hélène et Pascal et l'UITA, pour pouvoir parler concrètement de ce qui se passe chez Falmilk et pour voir comment est-ce qu'on va avancer sur ce sujet, sachant qu'Hélène a déjà un questionnaire qui est prêt et donc on va utiliser pour rencontrer la direction. Et nous, on mettra l'accent, bien sûr, sur les droits humains, mais bon, les petits producteurs, c'est clairement les droits humains. Donc on prévoit rapidement de rencontrer la direction sur ce point, sachant qu'il y a vraiment deux leviers là, hein. Il y a la question du mon lait local et il y a la question de l'huile de palme. On va voir comment est-ce qu'on arrive à travailler sur ces deux sujets. Et autre perspective, alors ça a été évoqué, mais on n'a pas encore travaillé dessus, ça serait de travailler sur un accord cadre international avec l'UITA, mettant en place clairement un droit d'alerte qui soit suffisamment connu et que les salariés puissent utiliser assez facilement. Parce que pour le moment, chez Danone, il y a une ligne qui s'appelle Ethic Line, que personne ne connaît. Et donc, il y a quelques signalements, mais c'est loin d'être satisfaisant. Et donc, on aimerait pouvoir s'impliquer sur ce sujet-là. J'espère que je n'ai pas été trop longue, Hélène, j'ai fini. Et si Ron ou Julie veulent me compléter, évidemment, ça sera avec plaisir.
Non, c'est parfait, Hélène, merci beaucoup. Du coup, Ron ou Julie, si vous voulez compléter, et ensuite on va ouvrir aux questions. Ron.
Non, je pense qu'Hélène était très, très complète, donc rien à vraiment ajouter. Juste un petit, bonne nouvelle, le camarade en Indonésie n'est plus en prison depuis un moment, mais il n'est non plus pas encore repris dans son travail chez Danone, et c'est là-dessus qu'on travaille maintenant. Donc, il doit être réintégré, mais ça, c'est compliqué là-bas. Mais on travaille là-dessus avec Danone et on imagine qu'un jour, il sera réintégré et son salaire réglé depuis février de cette année. Mais il n'est plus en prison et dans une situation COVID en Indonésie, ça, c'est une bonne chose parce que les prisons sont des endroits maintenant assez dangereux, plus que jamais. Voilà. Mais à part ça, Hélène, complet. Il n'y a rien à ajouter.
Merci à vous.
Merci Ron pour les nouvelles. Merci beaucoup Hélène, je pense que c'était vraiment très clair aussi et c'était bien de voir de manière plus concrète le travail des partenaires sociaux, le travail de voilà même de la coordination au niveau international voilà sur cet aspect du devoir de vigilance et votre rôle dans les mécanismes d'alerte. Et je trouve que t'as bien montré qu'on touche du doigt une corde un peu voilà enfin un point assez sensible qui est et pour lequel aujourd'hui on fait ce webinaire pour voir vraiment l'articulation entre nous, notre plaidoyer, le plaidoyer qu'on relaie de la campagne Mon lait est local, c'est-à-dire les pratiques des multinationales européennes en Afrique de l'Ouest concernant voilà leurs filiales en Afrique de l'Ouest et le fait que elles nuisent aux filières lait locales et le devoir de vigilance. Et c'est en effet deux aspects que voilà, qu'il faut articuler et qui demande en effet à la fois de la sensibilisation et de creuser un petit peu pour voir comment ça peut s'articuler. Donc, je pense que c'était vraiment très intéressant et c'est ce sur quoi on a besoin d'échanger ensemble aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Et j'ai pas noté de questions dans le chat pendant les interventions. Du coup, n'hésitez pas soit à lever la main et on peut vous laisser la parole si vous avez des questions ou à écrire vos questions dans le chat que j'adresserai aux intervenants. Et du coup, je vois que Ron a levé la main. Donc,
Oui, juste quelque chose de concret sur la vigilance. Et c'est unique pour le moment chez Danone, ça n'existe pas ailleurs. On a un accord avec Danone, on a 9 accords par écrit internationaux. On avait discuté il y a un petit moment avec Franck Ribou sur le fait que d'avoir des bouts de papier, c'est une chose, mais pouvoir vérifier qu'est-ce qui se passe sur place, c'est autre chose. Donc, on a pu installer un accord gentleman's, comme on dit en anglais, Luitia et Danone fassent des visites dans les usines Danone dans le monde conjointes, avec la direction de Paris et une représentante de l'UITIA pour essentiellement vérifier d'abord que les accords sont connus, qu'ils sont respectés, identifier les endroits où ce n'est pas le cas et en même temps que toutes les normes internationales sur les droits humains sont aussi respectées. J'ai pris les mains de ça au début de 2019 parce que j'avais plus de temps non étant plus le secrétaire général de l'UITIA. Évidemment, en 2019, on a pu faire ça aux États-Unis et en Russie, mais c'est clair qu'en 2020, on n'a pas pu visiter les usines. Et c'est quelque chose qui se passe très difficilement par Zoom, virtuellement. Donc, c'est un peu en suspens. Mais dès qu'on peut, on va continuer ce projet. Et c'est un projet qui donne à un représentant de Paris l'occasion de discuter avec la direction, à moi de discuter avec les travailleurs et le syndicat, et finalement d'avoir des discussions conjointes. Et on a vu en Russie, par exemple, que la conséquence, c'est qu'il y avait une augmentation de syndicalisation, parce qu'il y avait une connaissance des droits plus claire et une direction qui est un peu plus disciplinée à respecter ses droits. Donc, c'est un projet qui reste unique chez Danone. On n'a pas ça ailleurs pour le moment. Mais c'est un type d'accord sur la vigilance de nos accords. Voilà, juste pour ajouter et concrétiser un peu. Voilà.
Merci, Ron. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, voilà, des commentaires sur ce qui vient d'être dit ou si vous voulez ajouter d'autres choses? N'hésitez pas à...
Si personne ne se lance...
Vas-y, Pascal.
Je vais abuser. Donc, moi, j'avais deux questions sur le niveau européen. Donc, j'entends que c'est plus large, a priori, enfin, en tout cas, ce qui est souhaité, est plus large que la réalité française. C'est-à-dire, est-ce que les coopératives sont incluses? En France, les coopératives ne le sont pas, même si elles ont la taille et l'impact de multinationales. Et puis la question du commerce équitable, Est-ce que les acteurs du commerce équitable sont impliqués, je le sais, mais elles ne sauraient pas être aussi un peu des précurseurs pour donner des lignes de conduite positives aux entreprises classiques. Donc ça, c'était la première question. Et puis la deuxième question, c'est au niveau français. Donc j'entends que pour Danone, il y a en tout cas une volonté et un début d'articulation avec les syndicats et une ouverture avec les acteurs de la société. Qu'en est-il des autres plans de vigilance? Est-ce qu'on a des bonnes pratiques à mettre en avant de dialogue autour des plans de vigilance, puis de la cartographie des risques.
Marc-Olivier, je vais te laisser répondre si tu veux au premier aspect sur.
Ok, donc je vais revenir sur le commerce équitable parce que là, je ne suis pas sûr d'avoir compris la question, donc j'aimerais bien qu'on reprécise cette question. Mais sur la première, donc sur le champ d'application de la loi, de la directive, pardon, on va voir ce que la Commission propose. Ce que le Parlement a, lui, dans le compromis au Parlement, c'est les grandes entreprises définies dans le sens de la directive comptable européenne. Je pense que c'est. Donc, c'est plus large que la loi française. Hein. Donc, il faudrait demander qu'on revienne sur la loi française, que je ne connais pas bien, mais la définition européenne, c'est 250, plus que 250 employés, un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros. Donc, je pense que c'est beaucoup moins que la loi française. Maintenant, spécifiquement sur les coopératives, non, ce n'est pas couvert. On vient d'avoir le problème dans une autre proposition de la Commission sur le reporting. Donc il y a une révision de la législation qui impose le reporting aux entreprises en termes de durabilité. Donc c'est une nouvelle directive qui s'appelle la Corporate Sustainability Reporting Directive. Et dans la proposition de la Commission, c'est de nouveau les grandes entreprises, mais ça ne couvre pas. Donc c'est uniquement les entreprises à responsabilité limitée. Et donc ça, c'est des éléments pour lesquels on pousse. Donc je pense que ce sera aussi un chantier auquel il faudra s'atteler pour cette législation-ci. Et donc sur le commerce équitable, il faudrait que.
Alors, enfin, je me posais la question. Donc tu as en partie répondu parce que j'imagine que l'économie sociale et solidaire et les coopératives en font partie, de même que le commerce équitable, ne sont pas concernés actuellement par le champ d'application de la loi. C'était la première question. Et la deuxième question, c'est si le commerce équitable est concerné, est-ce qu'il ne pourrait pas avoir un rôle de pionnier, d'exemplarité pour d'autres entreprises?
Ouais. Non, donc je reviens sur ce que j'ai dit. Donc, c'est un peu technique, mais donc sur la base légale, donc est interprétée par la Commission comme lui donner l'autorisation de. Donc, c'est le droit des entreprises, en fait. Et donc, la législation, la proposition réglementerait les entreprises qui ont une identité juridique, donc une personnalité juridique à responsabilité limitée. En gros, c'est ça le champ d'application. Donc, c'est ça la distinction. Donc, le commerce équitable, c'est pas un concept juridique. Il faut voir que les entités juridiques qui pratiquent le commerce équitable, est-ce que ce sont des entreprises à responsabilité limitée, donc il y a une personnalité juridique qui correspond au droit des sociétés. En gros, c'est ça le critère. Je sais pas dans le cas de la France, mais dans le cas de la Belgique, il y a des entreprises de commerce équitable qui sont établies en société. Voilà. Est-ce que ça répond
à
la question?
Oui, tout à fait. Ouais. Non, c'est très clair.
Maintenant, le rôle d'exemple du secteur du commerce équitable, on pourrait espérer que le commerce équitable pratique déjà activement le devoir de vigilance. Et qu'il est dans le petit pourcentage des entreprises qui font déjà, qui pratiquent déjà ça activement. Mais vu que moi, je ne travaille pas dans ce secteur-là, je sais pas répondre à la question. Est-ce que vraiment le commerce équitable joue ce rôle de précurseur ou non? C'est une question intéressante.
Merci Marc-Olivier. Sur le deuxième volet de la question, je ne sais pas si Hélène, tu voulais répondre ou Alexa, peut-être.
Alors, sur le changement de gouvernance chez Danone, on a été très préoccupés par tout ça ces derniers mois. Bon, il se trouve que le fait que, bah, qu'il y ait le nouveau PDG, bon, pour le moment, on ne le connaît pas, mais bon, il a sa réputation, enfin, il est dans les mêmes lignes, hein, pour l'instant, donc on est moins tracassé que ce qu'on l'a été. Et puis, le fait que Ron soit nommé dans le comité d'entreprise à mission, c'est un signal très positif puisque Ron s'est investi depuis des années chez Danone sur la signature des accords cadres internationaux et des droits humains. Donc, ça montre une volonté de continuer, en tous les cas, le double projet économique et social. Donc, on a bon espoir, mais Ron me complétera sûrement sur ça. Après, Pascal, tu parlais d'autres exemples de plans de vigilance positifs ailleurs. Alors, du point de vue syndical, on est peu impliqué hein, pour le moment. Il faut vraiment faire un gros travail de sensibilisation des équipes, comme je le disais tout à l'heure. Et ça reste pour le moment des plans assez succincts et on se contente, la première étape, enfin on ne se contente pas, mais pour le moment, on en est à la phase où on demande une présentation des plans de vigilance dans les instances adéquates. Mais il n'y a pas d'implication réelle dans la construction du plan côté des salariés. Je ne sais pas si c'était vraiment l'objet de ta question, si j'ai bien compris.
Si, en fait, c'est un peu ça peut être construit, on va dire, en interne, les plans de vigilance, et c'est le degré d'ouverture aux autres acteurs de la société. Donc, ça peut être syndicaux, ça peut être environnementalistes, ça peut être défense des droits de l'homme, par exemple.
D'accord. On a une question peut-être qui peut être adressée assez rapidement dans le chat et ensuite on va prendre les mains levées. Une question sur est-ce que la loi sur le devoir de vigilance pourrait être exploitée pour y intégrer une obligation de vigilance relative au bien-être animal sur les entreprises concernées. Alexia, peut-être que tu peux, t'as peut-être des éléments de réponse sur ça. En tout cas, sur la loi française, est-ce que c'est possible d'intégrer une obligation de vigilance relative au bien-être animal ?
Alors, je pense que ça dépend du bon vouloir des entreprises, enfin, dans leur plan de vigilance, du coup, parce que la loi en tant que telle n'empêche pas, en tout cas, d'intégrer ce type de précision. Donc voilà, actuellement, je pense que ça dépend des entreprises.
D'accord, donc un flou juridique qui du coup dépend des entreprises pour inclure cette dimension. La première main levée, c'était Jacques Berthelot. Vas-y Jacques, si tu veux poser ta question.
Donc simplement, ce que je note en regardant sur Internet, c'est qu'il y a quand même des très grosses coopératives laitières en Europe, hein, Friesland Campina, la première, Arla Food, Kerry Group, Dutch Milk Contour, Sodial pour la France, Glanbia, Irish Dairy Board, etc. Donc, autrefois, bon, ça fait longtemps, je me rappelle que les coopératives laitières représentaient plus de la moitié de la production de lait de l'Europe. Alors, ça a peut-être changé, mais en tout cas, il y a encore de très grosses donc, coopératives laitières. Je ne sais plus quel est le pourcentage total, mais c'est très étonnant qu'elles ne soient pas astreintes au devoir de vigilance.
Je ne sais pas, Marc-Olivier, si tu voulais compléter sur les coopératives. Je pense que tu
avais. Mais donc, le problème des coopératives, c'est dans le domaine agricole, c'est lié au lobby des syndicats dominants agricoles où les grosses coopératives ont un siège. Donc, on a eu le problème sur la législation, sur les pratiques de commerce déloyales. Hein. C'est exactement le même problème. Donc, il y a eu des amendements déposés pour exempter totalement les coopératives du champ d'application de la législation. On a réussi à éviter ça. Mais donc, il y a une pression forte, évidemment, vu le poids de ces acteurs et leur relais au niveau politique. Donc, ça, c'est quelque chose auquel il faut rester vigilant. Et voilà, c'est la réalité.
Et c'est d'autant plus un point de vigilance que bah, dans les coopératives que tu nommes, Jacques, il y en a au moins quatre qui sont très actives en Afrique de l'Ouest et voilà, qui ont des activités, notamment des filiales ou des exportations de lait dégraissé et enrichi en matières grasses végétales. On avait
Juste pour dire, les arguments avancés sont très formels. Hein, donc, c'est de dire, ah oui, mais comme on est une coopérative, on ne peut pas avoir des pratiques de commerce déloyale avec avec soi-même, puisque le fermier, il a une action, je ne sais pas, peut-être de 100 euros dans une coopérative. Donc, par définition, il ne peut pas. Voilà, donc c'est des arguments extrêmement formels et qui n'est pas trop difficile. Si on les expose, voilà, on peut les déjouer. Je pense. Le problème, c'est d'être présent au bon moment pour faire barrage.
Exactement. Léa Falco avait une question. Je te laisse prendre la parole.
Oui, merci pour la présentation. C'est sur un thème un peu différent, mais qui reste toujours dans le même domaine. En juillet, il va y avoir une proposition de la Commission sur la déforestation. Et en fait, une des choses qui devraient émerger au cours de cette proposition, ce serait d'imposer un devoir de diligence aux entreprises sur les commodités qu'elles vont apporter. Et c'est peut-être une question pour Alexia ou Marc-Olivier, mais quelle synergie vous voyez avec cette future législation sur le devoir de vigilance?
Marc-Olivier, je ne sais pas si tu veux répondre.
Oui, je peux, mais si tu as... Vas-y, et puis je compléterai. Si tu as des éléments à dire.
Selon moi, la proposition de la Commission, elle peut s'inspirer ou se baser en tout cas sur ça. Mais j'ai pas. Pour moi, Marc-Olivier était plus compétent que moi pour répondre.
Ok. Oui, donc c'est très très c'est très lié. Il y a eu des processus parallèles au niveau de la Commission, du Parlement. Il y a aussi un rapport d'initiative législative du Parlement qui est très bon, très fort sur cet aspect-là. L'initiative de la Commission, il faut que je vérifie l'agenda, mais je pense que c'est annoncé pour l'été. Je me demande si c'est pas au Collège des commissaires en juillet. Alors, je suis pas ce dossier-là de près. La question, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir dans la proposition de la Commission. On a vu une proposition récente de la Commission sur un autre secteur. Donc, il faut savoir la législation dont on parle maintenant, donc sur le devoir de vigilance, ça va être une législation horizontale, comme on dit, c'est-à-dire qu'il va couvrir tous les secteurs et viennent s'ajouter à cette législation transversale des législations complémentaires sur des chaînes de valeur spécifiques. On a vu une proposition récente de la Commission sur les batteries. Donc, vous savez que l'électrification du transport, c'est un enjeu très fort de la transition énergétique et il y a une politique industrielle européenne pour promouvoir une production de batteries européennes. La proposition de la Commission est très faible, donc elle inclut un chapitre sur le devoir de vigilance pour cette chaîne de valeur-là, mais qui est extrêmement faible, vraiment très, très, très pauvre, très mauvaise. Avec juste un recours aux audits, des choses qu'on sait qui n'ont pas marché, et puis une possibilité pour les organisations d'entreprises, comment on dit ça, multipartites, de se substituer. Donc, on espère que pour les produits de la déforestation, ce sera pas, ça ne va pas déforcer, créer un mauvais précédent, vu que maintenant il y a un retard, il va y avoir un retard à cause des obstacles. Politique dans la proposition législative transversale, ce serait malvenu si des propositions sur des secteurs spécifiques venaient déforcer l'ensemble. Mais je ne suis pas de près. J'espère que les collègues dans le domaine environnemental sont très vigilants et qu'on va avoir une bonne proposition de la Commission sur les produits de la déforestation qui va donner une bonne base de départ. En tous les cas, le Parlement, lui, a fait œuvre utile et la proposition du Parlement est bonne.
Merci Marc-Olivier. On va prendre la question de André et ensuite, il y a deux questions dans le chat qui ont trait spécifiquement à la thématique de notre webinaire et ensuite je pense qu'on va devoir arrêter les questions pour être dans les temps. Donc André, je te laisse la parole.
Oui, elle est un peu complémentaire de la précédente. Là, dans le cadre de l'Académie d'agriculture, on a regardé un peu les importations de protéines et notamment de soja et plus particulièrement sur le Brésil. Et il y a effectivement la question de la déforestation, mais il y avait aussi la question de l'utilisation des produits chimiques en quantité très importante, jusqu'à 2 à 4 fois plus importante que les pays qui en utilisent le plus en Europe. Et pour la moitié de ces produits, c'est des matières actives interdites chez nous. Alors, par rapport à ça, il y a effectivement les exportateurs et les importateurs européens, la FEFAC, disent on a maintenant du soja équitable, etc., avec des cahiers des charges volontaires qui sont peu contrôlés. Et est-ce que cette nouvelle législation là, sur le droit de vigilance pourrait être une entrée juridique par rapport à ce genre de choses? Parce qu'il y a effectivement tout un mouvement qui s'organise autour de ça. Est-ce qu'effectivement on accepte de laisser importer des produits qui sont considérés comme toxiques chez nous et utilisés en masse là-bas? Et ça arrive chez nous pour faire du lait et des poulets en masse qu'on exporte après sur l'Afrique, bien sûr. Est-ce que ça peut être un moyen supplémentaire de verrouiller?
Je ne sais pas, tu veux que je dise un mot, Hélène, ou est-ce que...
Tu peux.
Oui, enfin, il faudrait voir dans les détails. Donc, il y a une législation spécifique ad hoc, sanitaire, sur les produits toxiques et les seuils de tolérance. Donc, normalement, tout ça est réglementé. Alors, est-ce que vous faites état d'un cas où il y aurait des exceptions à cette législation, si c'est pour la réexportation, je suis pas au courant de ça. Mais normalement, là, il y a une réglementation européenne, donc vraiment très détaillée par produit et par voilà avec des seuils de tolérance. Le problème, évidemment, c'est l'application de cette législation. Donc, je ne sais pas exactement à quoi vous faites référence.
Mais c'est effectivement, il y a trop peu de contrôle. Les normes d'utilisation toléré au Brésil par rapport à l'Europe, c'est des fois de 1 à 10, des fois de 1 à 100. Et au bout du compte, on reçoit des produits qui sont relativement peu contrôlés, qui peuvent être dangereux chez nous, mais qui sont surtout dangereux chez eux pour les populations locales, parce que là où on cultive le soja, c'est la zone aussi où c'est un peu le château d'eau du Brésil pour la partie habitée, et ces cours d'eau sont en train de devenir complètement toxique, intoxiqué par ces produits-là. Et c'est le soja, c'est la canne à sucre, etc. Donc, est-ce que cet aspect de devoir de vigilance pourrait aussi être une entrée pour s'occuper un peu plus précisément de ce qui se passe là-bas dans les conditions pour les populations locales et pour l'environnement?
Oui, donc ça, absolument. Donc ça, c'est l'objet. Donc cet aspect-là, oui, doit être couvert par la législation, sinon elle manque sa cible. Donc, l'aspect impact sur l'environnement et sur les populations locales dans la chaîne de valeur, donc ça apporte un complément. Oui, absolument. Donc, et c'est pour ça qu'on essaye de suivre ce processus pour que ça devienne un outil qui va permettre de s'attaquer à ce type de problématique. C'est vraiment au cœur de la législation. Donc, il faut absolument que pour des cas comme cela, la législation fasse la différence, donc avec une stratégie de vigilance des entreprises pour l'ensemble de leur chaîne de valeur et des sanctions à la clé et une responsabilité à la clé. Donc c'est pour ça que que cette législation a un intérêt, c'est pour ça que nous luttons et c'est pour ça que nous espérons que vos associations vont soutenir et se joindre à nous pour s'assurer que ça devienne un outil qui va permettre de lutter contre ces pratiques.
Du coup, André vient d'exposer vraiment des cas où en effet, la loi sur le devoir de vigilance s'applique effectivement et le lien est assez simple à faire. On a une question dans le chat justement pour revenir un peu sur le sujet. Dans quelle mesure est-ce que le devoir de vigilance peut renforcer les filières de lait local en Afrique de l'Ouest? Et si oui, quels sont les leviers pour utiliser la loi pour le faire? Voilà, parce qu'on est un peu sur un flou, puisqu'on ne parle pas directement d'atteinte aux droits humains, on ne parle pas directement d'atteinte environnementale. Voilà. Comment est-ce que la loi sur le devoir de vigilance, la future directive européenne, pourrait aider ce plaidoyer de renforcer les filières de lait local en Afrique de l'Ouest et de limiter les impacts des pratiques des multinationales européennes en Afrique de l'Ouest d'export et d'export de lait réengraissé? Et voilà, quels pourraient être les leviers? Voilà, donc là, c'est vraiment une question pour tous les trois. Donc, voilà, la personne qui veut prendre la parole est bienvenue.
Je vais laisser la priorité à Alexia, en tous les cas pour la loi française, et puis je peux rajouter au niveau européen, et puis pour Danone.
Une question qui est assez difficile à laquelle il est assez difficile de répondre parce que selon moi la loi française elle permet de dénoncer des entreprises qui ont des pratiques avec des impacts négatifs et donc c'est en ce sens-là qu'on peut avoir un impact grâce à cette loi. Mais selon moi, elle n'a pas tant d'impact en termes de modifications structurelles, à moins d'avoir les capacités de dénoncer toutes les conséquences des entreprises. Mais c'est concrètement pas faisable, je pense. Du coup, en tant que telle, selon moi, la loi, elle n'a pas un grand impact sur ça. Mais pour revenir sur ce que j'ai dit dans ma présentation, il faudrait également, pour quand même permettre d'éviter aux grandes entreprises sur place d'avoir ces impacts-là, que la loi prenne en compte notamment les questions d'accaparement de terre et de l'eau et tous les autres risques oubliés que j'ai cités, qui ne sont pas forcément actuellement identifiés par les plans de vigilance des entreprises. Voilà, c'est un peu pessimiste comme réponse, mais, mais je ne vois pas, je vois pas d'autres impacts, d'autres leviers.
Marc-Olivier, tu voulais apporter des
Oui, là, mais là, je pense que oui, on est. Donc, ce que nous, on essaye de faire, c'est que la loi intègre les pratiques dans la chaîne de valeur, donc et qui intègre la dimension économique. Donc, par exemple, que les politiques de prix, de salaire, etc., soient un facteur et soient considérés comme. Doivent être intégrés dans les plans de vigilance. Ce qui n'est pas évident parce que, évidemment, la fixation de prix, de salaire, etc., voilà, ça, on touche à des questions qui sont vraiment un petit peu le concept de salaire digne, de choses comme ça. Enfin, voilà, on est, donc, c'est là-dessus qu'on se bat. Maintenant, aller au-delà. Où on touche à des notions de droit de la concurrence des loyers, etc., des pratiques de dumping. On est un peu en dehors du cadre de la loi. Et donc là, je pense que c'est d'autres outils qu'il va falloir utiliser, soit la législation sur les produits dans les pays d'importation, par exemple, interdire le mélange d'huile de palme dans le lait, des choses comme ça, redonner un avantage aux filières laitières. Et voilà, donc il y a des limites à ce que la législation va pouvoir faire.
Bien noté. Hélène, est-ce que tu voulais apporter des compléments? Et ensuite, on va prendre la question de Indatou.
Oui, après, bien sûr, la loi ne couvre pas tout, mais après, on peut parler de l'esprit de la loi. Après, ça repose aussi sur la volonté des parties. Hein, donc, je pense que par exemple, chez Danone, il y a une possibilité de faire une pression syndicale pour pouvoir aller au-delà de la loi. Et c'est aussi, et en parlant de l'esprit de la loi, c'est une notion juridique, certes pas contraignante, mais en tous les cas, qu'on peut utiliser quand on a affaire à des gens de bonne foi. Et puis après, comme vient de le dire Marc-Olivier, il y a aussi l'angle de l'huile de palme qui, là, pour le coup, rentre sous le couvert juridique de la loi sur le devoir de vigilance. Donc, en utilisant ces deux angles-là, il y a possibilité de définir une stratégie assez forte, je pense. Mais j'aimerais que, si Ron le veut bien, me complète peut-être sur ça, parce que tu connais bien le sujet, Ron. Ou peut-être que tu n'as rien à dire, mais ça m'étonnerait.
Couronne, si, pour compléter l'intervention d'Hélène. Non, pas spécifiquement. Hélène, tu as bien parlé. On va prendre la question d'Indatou, qui coordonne la campagne Mon lait est local et qui est parmi nous. Donc, Indatou, je te laisse la parole. Je te laisse poser ta question.
Ok, merci beaucoup, Hélène. Bonjour à tous. Merci pour ce webinaire très instructif. On apprend beaucoup avec cette loi. Moi, je voulais juste savoir, j'ai pas suivi, désolé, j'ai pas suivi toute la présentation au début sur cette loi. Donc, je m'en excuse si ma question a déjà été prise en compte dans la présentation. Pour moi, il s'agit de comprendre, est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues pour les entreprises peut-être qui ne vont pas respecter ce devoir de vigilance? Tout à l'heure, j'entends dire que la loi, elle ne prend pas tout en compte. Certes, elle ne prend pas tout en compte, mais avec la filière laitière en Afrique de l'Ouest, je pense qu'il y a des points très intéressants que la loi prend en compte, si j'ai bien compris. J'ai entendu ici parler de l'environnement, effectivement, par rapport au lait réengraissé, mais aussi par rapport à la question sanitaire, parce que le lait réengraissé a aussi, on a fait une étude avec SOSFIN qui est là, sûrement qui peut témoigner, qui montre que ce lait n'est pas vraiment un lait. Certains laits ne sont pas très bons, notamment pour l'alimentation des enfants, parce qu'en Afrique, tout ce lait-là est forcément utilisé à tout moment. Donc, les enfants, les petits-enfants le prennent. Donc, il n'est pas forcément indiqué pour la croissance. Donc, pour des questions sanitaires, on a quand même une sonnette d'alarme à faire par rapport à la vigilance, par rapport à ce truc-là. Donc, pour moi, bon, on verra forcément des pans qu'il faut prendre par rapport à la filière locale. On aura forcément des choses à pouvoir valoriser et à pouvoir monter des plaidoyers pour agir par rapport à ça. Maintenant, est-ce qu'il y a, ma question principale, c'est est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues pour les entreprises qui ne respecteraient pas ce droit de vigilance? Si oui, quelles sont ces sanctions et comment procéder pour... Je sais qu'il y a l'alerte, il faut dénoncer, c'est vrai, mais quelles sont ces sanctions? Voilà, c'était ma question, merci.
Je vous laisse répondre sur soit Alexia, Marc-Olivier.
Oui. Alors déjà, il faut savoir que pour les sanctions... Donc, les leviers qui existent, c'est d'abord donc il y a une première chose. Pour qu'une entreprise soit dénoncée, il faut soit qu'il y ait des risques qui étaient omis dans le plan de vigilance, soit que les risques qui ont été identifiés, les choses mises en place pour éviter que ces risques aient lieu, ne sont pas suffisantes. Donc, il y a ces deux choses. Et à partir de là, si les dommages sont prouvés ou que les manquements sont prouvés, l'entreprise peut être dénoncée et assignée en justice, mise en demeure puis assignée en justice. Et après, les sanctions, je ne peux pas répondre... précisément, ça dépend de ce qui a été dénoncé quels sont de ce qui est dénoncé. Mais par exemple, généralement, ce qui est demandé, c'est une contribution financière. C'est ce qui, dans le cas de Casino, par exemple, c'est ce qui est demandé. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu exactement à la question, mais je ne peux pas répondre plus précisément.
Brièvement, au niveau européen, donc de nouveau, on va voir ce que la Commission va proposer. La première chose, c'est que comme c'est une directive, beaucoup va dépendre de la mise en œuvre au niveau des États membres. Parce qu'une directive n'introduit jamais directement des sanctions, on n'est pas dans une réglementation. Donc les sanctions devront être décidées au niveau des États membres. C'est les principes qui vont être inscrits dans la directive. À ce niveau-là, le texte du Parlement, il est assez bon. Autant il est ambigu sur la question de la responsabilité des entreprises, autant au niveau des sanctions, il est clair et il demande aux États membres d'introduire des sanctions. Le terme, c'est des sanctions proportionnées, dissuasives et effectives, hein, qui tiennent compte de la gravité des infractions. Donc, à ce niveau-là, les principes sont bons au niveau du Parlement. On peut espérer que la Commission va reprendre la même approche, mais ça va vraiment dépendre. Ça va vraiment dépendre de la transposition de la législation au niveau des États membres. Et donc, c'est pour ça que c'est important que vous restiez vigilant et que vous suiviez le processus également au niveau français. Donc, c'est une opportunité, je pense, cette législation européenne, de renforcer le régime des sanctions existant dans la loi sur le devoir de vigilance française.
Hélène, je ne sais pas si tu avais aussi un dernier mot à ajouter, parce qu'après Pascal va conclure, donc je te laisse la parole si tu voulais ajouter un dernier mot sur ce point ou sur un autre point.
Oui, sur le point de Laurence qui vient d'écrire quelque chose dans le chat en disant qu'elle était donc dubitative par rapport à l'utilisation de l'esprit de la loi. Alors, j'ai utilisé le terme de bonne foi, donc c'est peut-être un peu excessif. Bien sûr, ça dépend des gens qui sont en face, mais disons que jusqu'à présent, Danone a toujours montré qu'ils étaient capables d'aller au-delà de la loi. Donc, et je parlais bien de Danone, puisque c'est ce sur quoi on m'a demandé d'intervenir. Je ne dirais pas la même chose sur Lactalis, hein, mais pas du tout. Hein. Donc, après, oui, ça dépend. Il y a toujours un volet soft law où on peut toujours essayer d'utiliser la loi, l'esprit de la loi, pour pouvoir avancer en mettant en place des stratégies syndicales. Mais on ne peut pas le faire partout. Chez Lactalis, ça s'est complètement fermé, par exemple. Donc, pas d'amalgame entre les deux entreprises. Hein. Je parlais bien de Danone. Donc voilà, mais c'est tout. Sinon, merci beaucoup pour ces échanges.
Des contextes différents. Donc, j'ai bien conscience qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu et auxquelles on ne pourra pas répondre, puisqu'il est déjà 13h06, donc on a dépassé le temps. Néanmoins, on peut y répondre par écrit suite au webinaire. Et n'hésitez pas à nous recontacter. Normalement, vous pouvez répondre à Pascal, puisque c'est lui qui vous a envoyé l'invitation. Et on transmettra les questions pour essayer d'apporter une réponse. Merci, un très, très grand merci à nos trois intervenants d'aujourd'hui et à tous les participants pour vos questions. Et je vais laisser Pascal conclure. Je te laisse le mot de la fin.
Eh bien, je te remercie. Donc, effectivement, merci aux intervenants et puis aux personnes qui ont participé aux échanges, qui ont permis à la fois d'avoir un bon état des lieux, de bien comprendre la loi, son intérêt, mais aussi ses limites au niveau français, de même que ce qui se profile à l'horizon au niveau européen, même s'il y a encore beaucoup de zones de flou. Moi, ce que je retiens comme façon dont on pourrait utiliser cette loi dans le cadre de N'exportons pas nos problèmes, c'est des pistes à explorer. À minima, il y a la question de l'esprit de la loi qu'évoquait Hélène, qui peut faire que le processus d'élaboration du plan de vigilance et de suivi du plan de vigilance puisse être un espace de dialogue dans lequel on puisse intégrer des sujets. Et on n'irait pas sur quelque chose de contraignant forcément, puisque on serait peut-être à limite par rapport aux obligations de la loi, enfin en tout cas c'est à discuter. Et puis il y a l'aspect judiciarisation, sanction, l'exemple de la mise en demeure de casino par rapport à des problèmes de déforestation. Donc là, je ne sais pas encore à ce stade aujourd'hui si on a des éléments permettant de faire un lien de cause à effet mettant concrètement une entreprise laitière responsable. Et d'après ce que j'ai compris aujourd'hui, dans le cadre de la loi française, de toute façon, seules deux entreprises laitières sont concernées. C'est Danone, donc là il y a un processus qui est en cours, et c'est Lactalis. Donc il faudrait peut-être analyser en particulier Lactalis et voir s'il y a vraiment des choses qui permettraient concrètement de les mettre devant leurs responsabilités et de faire pression par rapport à des enjeux autour du développement de la filière locale en Afrique de l'Ouest. Voilà, et donc comme l'a dit Hélène, trop, sauf aussi. N'hésitez pas à renvoyer des questions, des commentaires, on en fera le meilleur usage. Et puis tout ce qui vient d'être discuté, de toute façon, fera l'objet d'une discussion interne au sein de N'exportons pas nos problèmes, pour voir si et de quelle manière on pourrait intervenir sur la loi française et les processus européens. Donc merci à toutes et à tous.
Oui, un grand merci. Bonne fin de journée.
Au revoir, merci à tous.
Oui, merci, au revoir.
Au revoir, merci.
Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir et merci beaucoup. Bonne journée.
Bonne journée. Au revoir.
Merci, merci.
Donc, pas de champagne.
Pas de champagne, on n'a pas atteint les 500.
Ah, écoute, on était entre 50 et 60, 55 et 60 à peu près.
Oui, oui, c'était c'était bien.
Tout a été effacé par Zoom.
Oui, oui. Donc, on aurait fait une réunion physique, on n'aurait peut-être pas eu tout ce monde-là. Donc,
C'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup, en tout cas, Alexia et Marc-Olivier, vraiment super. Je vois qu'Hélène est partie, Hélène Debord, mais... C'était vraiment très riche. En plus, on a pu aller sur plein de sujets. Je pense que ça a motivé pas mal de personnes. Donc, c'était vraiment très intéressant. Et qui sait, Marc-Olivier, tu vas peut-être avoir des ONG françaises qui vont vouloir se rallier au plaidoyer.
Oui, on ne faudrait peut-être pas en piquer trop à N'exportons pas nos problèmes non plus.
Bon, après, s'ils font le lien.
Non, et par contre, ActionAid est bienvenue. Hein. N'exportons pas nos problèmes.
On va commencer par Oxfam France. Hein.
Ah, bah alors là, je te laisse répondre. Mais tu n'as pas essayé avec Oxfam Belgique et Thierry?
C'est ça, Thierry, écoute, là. Hein.
Il est toujours là, Thierry, je crois, non? Il reste.
Oui, je n'ai pas encore eu le temps de pousser sur la touche quitter, mais donc je vous entends, oui.
Si je peux recruter Oxfam France et Oxfam Belgique suite à ce
t'as webinaire, déjà Oxfam France.
Mes objectifs auront été...
t'as déjà Caroline à Oxfam France.
Bah, écoute, sur le devoir de vigilance...
Mais oui, c'est ça.
Ton support serait plus que bienvenu, n'est-ce pas?
Comme dédoubler, me tripler, je pense.
Mais c'est bien si ce webinaire permet de renforcer le réseau Oxfam au niveau
européen. Ah oui, non, merci beaucoup pour ça, c'est vraiment super.
Bon, eh bien, bonne journée en tout cas, merci beaucoup.
Bonne journée, merci à
tous. Voilà, merci, ouais, je vous ai envoyé un petit de la documentation par email, donc
parfait,
à vous de voir ce que vous en faites. Voilà.
On va transmettre avec l'enregistrement et le compte rendu, on va voir comment on fait avec Pascal.
Ok, super.
Merci beaucoup.
Chouette. Salut, ouais. Alexia, c'était un plaisir de faire ta connaissance.
Également.
Salut, ciao Thierry.
Au revoir.
Au revoir. Que si je m'en vais, je coupe tout, donc je ne veux pas être incorrect.
Salut.
Salut.